Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission cette semaine, nous avons décidé de revenir sur un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit du vieillissement, qu'il s'agit effectivement de l'adaptation de notre société à ce grand enjeu du vieillissement de la population française, avec régulièrement des ouvrages qui abordent cette question. Et un ouvrage en particulier qui nous a interpellé, c'est Le Grand Vieillissement, et on aura l'occasion de recevoir dans la seconde partie de l'émission l'auteur de cet ouvrage. Mais dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Luc Broussy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la filière Silver Eco et également fondateur du think tank Matière Grise. Et vous êtes un des acteurs finalement de ce fait de société du vieillissement. Vous avez été l'auteur notamment d'un rapport l'année dernière que vous avez remis au gouvernement, un rapport Broussy, 80 propositions pour adapter la société au vieillissement. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Luc, c'était un petit peu le parti pris de cette émission, c'est est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment et qu'il y a une prise en compte suffisamment importante dans la société française de ce grand changement démographique? Et je ne vais pas donner 50 chiffres, mais j'en donnerai un qui est assez important. On y reviendra peut-être après sur d'autres éléments de démographie, mais sur la tranche des 75-85 ans, en 10 ans, on va passer de 4,1 millions de personnes concernées à 6,1 millions en 2030. Et finalement, c'est un grand bouleversement, c'est un grand changement dont on parle finalement très très peu.
Alors, vous avez à la fois raison et tort. Raison parce que c'est vrai que on peut considérer que la transition démographique, c'est une des grandes révolutions planétaires. Pas seulement européenne, française, mais bien planétaire. Partout dans le monde, la question numérique est essentielle, la question environnementale est évidemment essentielle. Puis il y en a une troisième transition dont on parle peut-être effectivement un peu moins, qui est la transition démographique. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le curseur, l'enjeu. C'est au-delà de la seule question du vieillissement, la question de la transition démographique est une de ces grandes mutations planétaires qui ensuite a des déclinaisons sur l'ensemble des continents et qui se déclinent par le vieillissement de la population, le vieillissement massif de la population en Europe et en France. Alors, effectivement, on en parle quand même un tout petit peu plus au fur et à mesure des années. Donc, je considère évidemment que l'enjeu n'est pas encore mis au bon niveau. Mais enfin, quand même. D'ailleurs, quand on n'en parle pas, les faits nous rattrapent. Il y a d'abord eu la crise sanitaire qui a touché en premier lieu les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Et donc on a à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, même si on ne l'a pas formalisé de cette manière-là, on a mis en place une forme de solidarité intergénérationnelle où les plus jeunes, les plus actifs sont restés à la maison pour protéger les plus âgés et les plus fragiles sans que, à part quelques polémiques un peu stériles, sans que cela ne mette à mal la cohésion sociale et la cohésion entre générations. Et puis il y a eu évidemment tout récemment le bouquin Les Fossoyeurs autour de l'affaire Orpea qui a remis le sujet, en bien, en mal, peu importe, mais qui a remis le sujet sur la table, à la fois sur la table des pouvoirs publics et en même temps sur la table médiatique, puisque ça a permis d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal une fois de plus, de parler de ce sujet. Donc oui, on a toujours l'impression que le sujet n'est pas à la hauteur, n'est pas traité en tout cas à la hauteur de son importance, mais enfin quand même, moi je perçois depuis plus de 20 ans maintenant que j'évolue dans ce milieu, que la donne démographique commence quand même à devenir quelque chose qui se diffuse dans la société, auprès des élus locaux notamment, qui me semblent aujourd'hui beaucoup plus sensibles à la question de l'évolution démographique sur leur territoire. Je pense aussi aux bailleurs sociaux qui ont parfaitement compris que dès aujourd'hui, 25% des locataires du parc social ont plus de 65 ans et que ce sera 40-50% dans 10-15 ans. Donc, vous voyez, à un moment donné, même si ce n'est pas la une des journaux, dans la société, le sujet est de plus en plus quand même pris au sérieux.
Alors, le sujet est pris au sérieux, néanmoins, vous avez souvent fait le constat que c'était difficile de sensibiliser les différents gouvernements à la prise en compte de l'adaptation de la société au vieillissement. Sur les 80 propositions que vous avez remises l'année dernière, est-ce que vous avez déjà des débuts de prise en compte? Est-ce que dans les budgets, dans les discussions budgétaires qu'il y a eu cette année, est-ce que vous sentez un frémissement?
Clairement, oui. Je ne peux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'en plaindre. Non, mais... Quand on fait un rapport comme celui que je fais l'an dernier, l'objectif, c'est que le gouvernement, quel qu'il soit, reprenne à son compte des mesures qu'on pense aller dans le bon sens. Là aussi, il y a un hiatus. Ceux qui croient au grand soir de la dépendance, ceux qui croient qu'à un moment donné, une loi va tout régler, va diminuer le reste à charge de nos compatriotes, va multiplier par deux les ratios de personnel dans les EHPAD, ceux-là, ils peuvent toujours attendre, ça ne viendra jamais. Donc, s'ils attendent cela, ils seront toujours déçus. Mais en même temps, il y a toujours quand même des progrès ici ou là. Je vous en donne deux qui ont l'air un peu techniques, mais qui sont en réalité, à mon avis, importants. C'était des propositions que je soutenais dans mon rapport. Un, MaPrimeAdapt. C'est l'idée qu'il faut arrêter souhaiter pour les Français le maintien à domicile sans en prendre les moyens. Et donc, moi, j'ai souhaité qu'à un moment donné, on puisse massifier et simplifier l'accès aux aides qui permettent aux seniors d'adapter leur logement. Je vous rappelle un chiffre absolument majeur. 10 000 personnes âgées meurent chaque année, de chute domestique. Bon, face à ce drame de santé publique, on est resté, relativement inactif pendant 20 ans. Il y a d'autres drames de santé publique, le tabac, où il y a une action publique forte, les accidents de la route, qui se sont divisés par 5 en 40 ans parce qu'il y a eu, là aussi, une politique publique forte. Sur les chutes des personnes âgées, tout le monde s'en fiche. Bon. Donc, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et avoir une politique massive, comme en Angleterre par exemple, d'adaptation, de soutien à l'adaptation du logement. Donc moi, j'ai prôné la création de MaPrimeAdapt sur le modèle de MaPrimeRénov', et le président de la République a repris cette proposition, la première ministre également, et le ministre du logement, Olivier Klein, a annoncé tout récemment que le 1er janvier 2024, MaPrimeAdapt serait en action et que tous les seniors de plus de 70 ans pourront, en fonction aussi de leurs ressources évidemment, mais pourront bénéficier d'un soutien logistique et financier pour adapter leur logement et donc à ce moment-là prévenir les chutes, prévenir les situations compliquées qui ne permettent plus de rester chez soi. Donc ça, oui, c'est une avancée majeure. Je me plaignais également dans ce rapport qu'il y a des gros instruments de politique urbaine que vous connaissez, vous, Action Cœur de Ville, 220 villes en France où il y a un soutien financier à la revitalisation des centres-villes. Petite Ville de Demain, même chose, grand programme public de soutien. Eh bien, sur ces deux programmes, il n'y a pas un mot sur le vieillissement. Alors que la démographie, elle est pourtant majeure dans la vitalisation, la revitalisation des centres-bourgs, des centres-villes, des métropoles. Eh bien, désormais, dans ces deux programmes, la question du vieillissement, la question démographique est devenue un des axes majeurs. C'est pas du vent, hein. Ça se traduit par quelques milliards d'euros d'investissement qui vont pouvoir, à travers la Banque des Territoires, Action Logement, l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, irriguer nos territoires pour adapter les villes, les villages au vieillissement. Voilà deux sujets qui apparaissent peut-être un peu techniques, mais qui peuvent fondamentalement bouleverser notre approche, à la fois de l'adaptation des logements. Il faut que les Français, aujourd'hui, il faut bien savoir une chose, non seulement il y a ces 10 000 morts d'accidents domestiques par an, mais surtout, en moyenne, les Français adaptent leur logement pour leur vieillissement à l'âge de 84 ans. C'est beaucoup trop tard. Donc il faut faire en sorte qu'une politique publique d'incitation à l'aménagement des logements permette bien que cette adaptation se fasse beaucoup plus tôt de manière préventive et pas de manière réparatrice.
Oui, parce que en fait, l'objectif, c'est aussi évidemment d'éviter certains accidents et des drames, mais aussi de maintenir le plus longtemps possible les personnes, même quand elles sont, quand elles commencent à être frappées d'une perte d'autonomie, mais quand même leur donner la possibilité de rester chez elles le plus longtemps possible.
Oui, alors, sachant que moi, dans ce même rapport, je redéfinis un peu ce que c'est que chez soi. Il ne faut pas non plus mettre dans la tête des gens qu'ils vieilliront jusqu'à leur dernier jour dans la maison à 3 km de la boulangerie, avec un jardin, avec un escalier qui descend la cave, un escalier qui monte à la chambre, le tout pour une veuve qui n'a plus de mari, et les enfants sont loin d'ici. Et ça c'est typiquement le domicile accidentogène. Donc, ce qu'il faut, avec la génération qui arrive, parce que vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, et vous avez parfaitement raison, dans les 10 prochaines années, c'est une explosion, non pas des plus âgés, mais des 75-84 ans. Mm-hmm. Cette population-là, ces 75-84 ans, ce sont quoi ? Ce sont des gens...
C'est à partir de 75 ans qu'on considère rentrer dans l'âge de plus grande fragilité.
Non, je ne sais pas, moi, oui, non. J'ai mal au genou en ce moment, j'ai beaucoup moins que 60 ans, et je me sens pas, je me sens un peu fragile en ce moment.
J'ai lu dans des publications de la Silver Economy, l'âge de la fragilité fixé à 75 ans, après, c'est évidemment chacun...
On a connu des gens très très fracassés par leur métier avant 60 ans, et puis des gens alertes qui battaient le record du monde de l'heure en cyclisme à 105 ans. Donc, il y a heureusement pas de déterminisme et il n'y a pas d'âge frontière. Mais il y a des grandes masses, effectivement, et vous avez raison. La question des fragilités, j'arrête de conduire, je deviens veuve, mon réseau social diminue. Oui, c'est à partir de 75-80 ans que ces risques-là apparaissent, à l'évidence. Bon. Et donc, il faut faire attention et c'est là qu'il faut avoir des actions fortes de prévention. Donc, vous avez ça, et vous avez un deuxième aspect sur lequel on n'insiste pas suffisamment, qui est un aspect plus sociologique. Les gens qui ont 75 ans aujourd'hui, qui vont avoir 85 ans en 2030, sont des gens qui sont nés en 1945, c'est-à-dire le début du baby-boom. Eh bien, ces mêmes gens avaient 23 ans en mai 68. Et ils n'appréhenderont pas leur vieillissement comme les générations précédentes. Et on le voit déjà aujourd'hui. Vous avez plus de 60 000 personnes en France qui ont choisi aujourd'hui de se loger dans une résidence service senior. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur domicile, qu'ils considéraient pas adapté, ou alors éloigné des centres urbains, pour rejoindre une résidence où il y a une vie sociale, où on est près de la boulangerie, de la pharmacie, du médecin, etc. Bon. Et donc, il va falloir faire avec ça aussi. C'est-à-dire que non seulement les personnes âgées sont beaucoup plus nombreuses demain, mais elles ne ressembleront pas à celles qui écoutaient Miss Tinguette et Edith Piaf sur leur radio. Elles vont écouter plutôt les Rolling Stones, puisqu'elles avaient 20 ans au moment de Satisfaction, et elles vont avoir 85 ans en 2030. Donc, il n'y a pas seulement un changement quantitatif, il y aura aussi un changement qualitatif qui fait que cette génération-là, elle va avoir envie de maîtriser son avenir, de maîtriser son vieillissement, et donc, elle voudra anticiper. C'est pour ça que je pense que les générations de demain, elles seront beaucoup plus sensibles à adapter leur logement, à anticiper, à se poser des questions, à prévenir. Regardez déjà aujourd'hui, il y a plus de septuagénaire qui n'a pas son iPhone avec des instruments qui permettent de mesurer son nombre de pas. Ça va rentrer dans la culture de la prévention et c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est pas seulement une explosion, il ne faut pas regarder l'explosion démographique comme d'abord une catastrophe potentielle, c'est pas
non,
vrai.
Non.
Et puis d'autre part, il y a cette évolution de nature sociologique qui fait que les vieux de demain ne seront pas les mêmes qu'hier et que ça va changer aussi beaucoup de choses.
Alors, on approche de la fin de l'émission, donc de la première partie, mais ce sera ma dernière question, mais j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Si on résume un peu les choses aujourd'hui par rapport justement à la manière dont on perçoit le vieillissement, pendant très longtemps, le vieillissement était synonyme de... précarité, il y avait beaucoup de retraités pauvres, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient des petites retraites. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une inversion, c'est que aujourd'hui, les plus gros patrimoines, ils sont chez les retraités, clairement, même y compris des patrimoines supérieurs aux actifs, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. Et aujourd'hui, la pauvreté, on a la sensation que c'est plutôt du côté de la jeunesse. On se rappelle tous les files d'étudiants devant les banques alimentaires ou les restaurants, etc. Est-ce que c'est pas synonyme de tension à terme, cet accroissement du patrimoine des plus anciens, et ils ont travaillé pour ça, hein, on va pas leur reprocher, mais c'était une époque aussi où le prix de l'immobilier n'était pas le même, etc., etc., ils ont pu terroriser, et aujourd'hui, le sentiment qu'une partie de la jeunesse, elle décroche durablement dans des situations de précarité.
Alors, moi, je ne crois pas du tout à une potentielle guerre des générations, tout le passé nous montre que, en France en tout cas, il y a une forme, je vous dis, de cohésion sociale.
La solidarité intergénérationnelle.
Oui, je ne sais pas si on aime les vieux, mais on aime sa grand-mère. Vous voyez, donc il y a quand même un sentiment de bienveillance. On l'a vu au moment de la canicule, on l'a vu au moment du Covid, qu'on ne peut pas nier. Alors même s'il y en a un qui, il y a toujours un ou deux sociologues en mal de médias qui soufflent sur les braises. Bon, mais très franchement, la réalité nous montre que ce risque-là n'est pas. Alors en revanche, il faut, et vous avez parfaitement raison, adapter notre discours. Il y a 40 ans, retraités étaient synonymes de pauvreté. C'est plus le cas aujourd'hui. Le taux de pauvreté en France est le plus faible à partir de 65 ans. Parce que nous avons construit, et c'est peut-être notre honneur collectif, des filets de sécurité, minimum vieillesse, retraite, etc., qui font que, même s'il y a évidemment...
Oui, il y a encore, bien sûr.
C'est un faible revenu. Bon, mais de manière générale, il y a...
Il y a des retraités très modestes, mais...
Il y a des retraités très modestes. Il y a très peu de retraités très pauvres, comme il peut y en avoir, comme il y a des poches de pauvreté dans le reste de la population. Donc ça, c'est plutôt, évidemment, un progrès de notre civilisation, de notre société depuis 40, 50 ans. Ça, c'est apporté à notre crédit. Mais alors, du coup, il faut revoir nos curseurs. Et c'est vrai que ces solidarités intergénérationnelles, elles doivent être... elles doivent être extrêmement actives et elles le sont déjà en grande partie. Mais ça, évidemment, on le compte pas. Il n'y a pas beaucoup de statistiques sur comment les grands-parents viennent en soutien, pas forcément parfois monétaire, mais parfois matériel. La garde d'enfants, le soutien au pouvoir d'achat, etc., etc. La maison de campagne qu'on partage avec les enfants. Enfin bon, il y a toute une série comme ça de relations. Informel, voilà, je cherchais le mot et vous l'avez trouvé, qu'on ne mesure pas tout le temps. Les statisticiens le mesurent, mais enfin, tout ça reste flou et vague. Mais nous, dans notre quotidien, on les constate sous nos yeux, dans nos situations personnelles, dans les situations de proximité, familiales et autres. On voit que ces allers-retours, ces allers-venus entre revenus des uns et des autres, ça joue encore et c'est actif. Bon. Il faut se le formaliser et il faut probablement, au fur et à mesure, se réinventer une forme de contrat intergénérationnel pour que ce qui parfois relève du non-dit soit explicitement mis sur la table. Oui, il y a des nouvelles solidarités intergénérationnelles à inventer. Elles existent déjà. Il faut peut-être mieux les formaliser pour mieux les comprendre et puis mieux les valoriser. Voilà. Donc aujourd'hui, les personnes âgées ne sont ni des riches qui gardent leur pognon pour eux, c'est pas vrai. Ce ne sont pas non plus des pauvres qui tendent la sébille, c'est pas vrai non plus. Et donc voilà, c'est quelque chose de composite. J'ajoute une dernière chose, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de quand on est vieux ? Bon, ben on est vieux à partir du premier jour où on commence à vivre. Hein. Bon, on est toujours le vieux de quelqu'un et on est toujours plus vieux que la veille. Bon, mais d'une certaine manière, quand l'âge de la retraite est aujourd'hui en moyenne de 62 ans et que vous voyez de plus en plus de centenaires, on comprend ce que c'est que la vieillesse. La vieillesse, c'est une période qui potentiellement va commencer à 60 et quelques années et qui va se terminer à 100, 105, 110 ans. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que parfois, on va vivre 40 ans, de 40% de sa vie dans ce qu'on appelle la vieillesse. Donc là aussi, les termes seront probablement à redéfinir un jour. Parce que moi, j'ai 56 ans aujourd'hui. Si vous me dites que dans 4 ans, je suis un vieux, on va pas bien s'entendre. Bon,
non, mais il paraît qu'on est senior à partir de 45 ans, donc ça va.
Oui, mais ça, c'était dans les vieux bouquins, de marketing. Mais tout ça n'a plus grand sens aujourd'hui. Mais vous voyez, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire qu'il y avait le troisième âge, puis on a inventé le quatrième âge. Et en réalité, tout ça est beaucoup plus complexe. Et puis, une fois plus, au-delà du moment où vous commencez votre retraite, là aussi, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a des situations sociales et sanitaires totalement différentes. Il y a des gens qui sont... Et je le dis au moment où va y avoir un débat sur les retraites, il y a des gens qui sont extrêmement fatigués à 65 ans, usés par le travail qu'ils ont eu ou par leur santé, et puis d'autres au contraire, souvent parce qu'ils ont eu une activité intellectuelle, souvent parce qu'ils ont eu des revenus plus élevés, qui sont en pleine forme à 80 ans, 85 ans. Bon. Donc voilà, donc plus que jamais, si on veut avoir un regard juste, il faut avoir un regard aussi qui ne traite pas le vieux comme une catégorie homogène, mais qui ait une vision plus sociale et qui traite aussi la question des revenus, puisque même si on vient de le dire, peu de retraités sont très pauvres, il y a quand même une extrême hétérogénéité des personnes âgées en termes de revenus et en termes de réseaux sociaux et en termes de vie sociale. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit si on veut avoir une politique juste envers cette catégorie de population.
Merci Luc Broussy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la filière Silver Economy, également fondateur du think tank Matière Grise. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur cette question du vieillissement de la population en France, mais également, vous l'avez rappelé, à l'échelle de toute la planète, puisque c'est une transition qui dépasse largement les frontières hexagonales. Merci beaucoup Luc Broussy.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et après Luc Broussy, notre premier invité que nous avons interrogé sur cette grande mutation démographique, ce grand vieillissement, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Sbeï, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, on vous rend hommage un petit peu dans cette émission parce qu'on a voulu, à travers le titre de l'émission, bien reprendre finalement le titre de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions L'Observatoire. Je rappelle que vous êtes économiste, essayiste et que vous avez publié cette année un ouvrage qui s'appelle « Le grand vieillissement ». Et on a eu envie de vous entendre parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est finalement une grande transition démographique, alors qu'elle n'est pas seulement nationale, hein, comme nous l'a dit Luc Broussy, c'est aussi au niveau mondial. Mais avec la question environnementale, avec la question du numérique, cette transition démographique et en particulier ce vieillissement de la population, et en particulier dans les pays européens, Vous nous interpellez dans vos autres ouvrages pour nous dire que c'est un des changements des plus importants qu'ait connu notre société dans la période récente.
Oui, tout à fait. Déjà, merci de m'inviter et merci de reprendre effectivement le titre de mon ouvrage. C'est effectivement une transition qui est inédite, la démographie. On parle beaucoup de deux autres grandes transformations de société qui sont le numérique, hein, la digitalisation de l'économie et de nos vies quotidiennes, le changement climatique avec un réchauffement qui s'accélère et qu'on peut constater dans notre quotidien aussi aujourd'hui. Et la troisième tendance lourde, c'est la démographie. Elle est beaucoup moins visible que les deux événements cités précédemment, mais elle est tout aussi puissante et elle est surtout inédite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que la France compte autant de seniors qui vivent aussi longtemps. C'est un changement majeur qui a des conséquences et des répercussions sur l'immobilier, sur la dépense publique, sur les soins, sur les retraites, bien sûr, sur la dépendance. Et donc c'est un sujet qui est, je trouve, à mon goût, pas assez abordé dans le débat public parce que c'est quelque chose qui est très lent, ça ne fait pas l'ouverture des journaux télévisés, et néanmoins c'est un sujet majeur parce qu'il a des répercussions majeures et ça va s'accélérer parce que comme vous le soulignez c'est un phénomène qui n'est pas réservé qu'à la France, on le voit bien sûr en France mais on le voit aussi en Europe, on le voit dans d'autres pays occidentaux, des pays dits avancés, on le voit même en Chine où vous avez la population active qui commence à baisser, donc vous avez toute cette en gros cette vague des baby boomers, hein, ce qu'on appelle les boomers qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu un très fort rebond nataliste qui a duré 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, cette post-nataliste, elle a remonté, si vous voulez, toutes les classes d'âge. Elle arrive au-delà de 60 ans et elle part à la retraite. Et avec des coûts et des conséquences qui n'ont pas du tout été prévues et budgétées. Et aujourd'hui, on est un petit peu dos au mur démographique. Il va falloir regarder ce problème de près parce que il va être très important et très coûteux pour le reste de la société.
Alors, on ne va pas abreuver les auditeurs de chiffres, mais il y a quand même quelques éléments à donner. D'abord, il y a une véritable transformation à l'échéance de 10 ans. On va passer de 4 millions de 75-85 ans à 6 millions. Donc là, on voit bien qu'en l'espace d'une décennie, c'est la génération des boomers, vous avez dit, qui vieillit tout simplement, qui a pris sa retraite. Et qui vieillit. Et puis, à l'échelle, effectivement, d'un peu plus longtemps, on a aujourd'hui 17 millions de retraités et ils seront, à l'horizon 2060, 23 millions. Et c'est
oui,
vrai que
c'est des chiffres qui donnent le tournis.
Voilà.
Alors il y en a deux autres qui sont intéressants. Effectivement, on veut pas abreuver les auditeurs de chiffres, mais quand même pour se donner une idée, on a aujourd'hui 27 000 centenaires. D'ici à 2070, ce chiffre va être multiplié par 10, c'est-à-dire qu'on va arriver à 270 000 centenaires en France. Là aussi, c'est du jamais vu, hein. On a jamais eu autant de personnes qui vivent aussi longtemps. Et puis il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on parle de pyramide des âges, mais aujourd'hui la pyramide, elle n'a plus rien de pyramidale. C'est-à-dire que quand vous la regardez de près, cette bosse des baby boomers, elle l'a complètement déformée. Elle ressemble plus à un champignon ou à un cylindre. Elle n'a plus du tout cette base très large et une pointe petite. C'est un petit peu l'inverse. Et il y a quelque chose qui s'est passé en 2014 qui est passé largement inaperçu, c'est que ce chamboulement démographique a fait que la proportion des plus de 60 ans dans la population française a pour la première fois de notre histoire dépassé celle des moins de 20 ans. Et ça, c'est complètement inédit. Aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent 26% de la population et les moins de 20 ans sont en déclin et devraient, d'ici 2070, arriver autour de 20%. Et donc, vous avez une population qui, dans sa composition, est de plus en plus âgée, de moins en moins jeune. Et ça, c'est quelque chose avec une situation à laquelle on n'a jamais fait face auparavant.
Alors, vous dites que, en tout cas pour la France, aujourd'hui, les choix collectifs. Donc, on rappelle aussi que les personnes âgées votent plus, hein, même beaucoup plus en moyenne que les plus jeunes. Ça a un impact en termes de choix de politique publique ou de choix de dépenses publiques, et que finalement, aujourd'hui, il y a des bénéfices qui seraient tirés par les baby-boomers de cette situation au détriment de la jeunesse ou d'une partie de la jeunesse.
Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce vieillissement démographique a des implications économiques, bien sûr, mais aussi politiques. Et en fait, aujourd'hui, les plus de 50 ans détiennent la majorité absolue dans l'électorat. Quand vous regardez les 48 millions d'électeurs français inscrits sur les listes, plus de la moitié ont plus de 50 ans. Et là aussi, c'est une déformation totale du corps électoral par cette bosse démographique des boomers. Et si vous prenez uniquement les moins de 30 ans, ils ne représentent que 17% de l'électorat. Donc, si vous voulez, c'est trois fois plus rentable, entre guillemets, pour un homme politique d'aller chercher les voix des plus de 50 ans que d'aller chercher celles des moins de 30 ans. Et donc, vous avez forcément une offre politique qui se réajuste sur une demande politique. Et forcément, quand vous êtes un électeur de plus de 50 ans, vous n'avez pas les mêmes demandes, les mêmes impératifs, les mêmes priorités qu'un jeune ménage de 30 ans. Je vous donne deux exemples. Sur la campagne présidentielle qu'on vient de traverser, il n'a quasiment pas été mention du logement, par exemple, ou même de la dette publique, alors que le logement, c'est la problématique numéro un des jeunes aujourd'hui, qui ont de plus en plus de mal à trouver un logement décent ou juste vacant dans des grandes villes, par exemple. Et sur la dette publique, forcément, ça c'est aussi un énorme problème, puisque l'horizon d'un contribuable âgé qui n'aura plus à la rembourser à l'avenir n'est pas du tout le même que celui d'un jeune de 20 ans qui se demande, cette dette publique record, comment est-ce qu'on va faire pour la payer un jour. Et donc, vous avez forcément une réorientation des priorités politiques pour répondre aux demandes d'un électorat qui est beaucoup plus âgé et moins d'un électorat jeune. Et donc, moi, je m'inquiète un petit peu de cette tendance-là, qui est une tendance gérontocratique, hein. Dans la définition, une gérontocratie, c'est un système politique et social dans lequel les classes d'âge plus âgées ont une influence supérieure aux autres. Arithmétiquement, on y est. Et donc ça pose vraiment un vrai problème d'horizon politique, de se dire comment est-ce qu'on prend en compte dans les décisions d'aujourd'hui le bien-être et l'avenir des générations actuelles, des jeunes générations et celles à venir, plutôt que l'immédiateté du court terme qui en fait dicte de prendre en compte simplement le présent sans garder un œil sur l'avenir. Et ça, c'est une vraie conséquence du vieillissement démographique qui se répercute sur la politique. Là aussi, en France, on l'a beaucoup vu dernièrement, on l'a vu notamment sur la retraite, je ne sais pas, on va peut-être y revenir, mais vous voyez ça effectivement dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, par exemple sur les lois immobilières pour la construction de nouveaux logements, par exemple, où c'est quelque chose qui est, on va dire, très débattu entre les partis, parce que politiquement, en tout cas électoralement, c'est pas du tout quelque chose d'intéressant. Par contre, pour l'avenir de pays, ça l'est, parce que ça permettrait d'avoir des nouveaux logements en construction.
Alors, ça explique aussi certains débats autour de la fiscalité. On n'a pas beaucoup non plus parlé de la fiscalité pendant cette élection présidentielle, mais on a entendu comme ça, ici ou là, des gens qui voulaient remettre en cause les droits de succession. Et en fait, c'est corroboré à ce que vous dites, puisqu'on a aussi une donnée qui est très importante, c'est que pour la première fois dans l'histoire aussi, le patrimoine des retraités est supérieur à celui des actifs. Et globalement, on se rend compte que les retraités ont un patrimoine qui s'accroît. Et alors que les autres, plus on va vers les... Alors c'est normal quand on est jeune, c'est un peu moins logique quand on est actif, mais on s'aperçoit que ces inégalités patrimoniales, elles sont aussi très fortes.
Oui, alors ce qui est très intéressant effectivement, c'est que ce vieillissement-là, donc l'effet de masse et de longévité fait que le patrimoine est de plus en plus concentré chez les plus âgés.
Voilà.
On pourrait croire que c'est normal, mais en fait c'est tout à fait inédit. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, le patrimoine en fin de vie était plutôt bas, c'était des actifs qui détenaient le patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent 25% de la population et ils détiennent 60% du patrimoine en France. Donc vous avez vraiment une concentration de plus en plus âgée du patrimoine qui est plutôt néfaste pour la croissance, parce que c'est principalement du patrimoine immobilier ou du patrimoine financier qui est investi, si vous voulez, sur des livrets A ou sur des obligations d'État, ce qui n'est pas très positif pour la croissance, pour le dynamisme de la croissance. Et c'est aussi tiré beaucoup par une acquisition du logement qui était beaucoup plus facile il y a 20-30 ans, ou même avant, à l'époque des Trente Glorieuses, où vous pouviez beaucoup plus facilement accéder à des logements qu'aujourd'hui, où les prix ont tellement augmenté que ça survalorise le patrimoine des boomers, mais en fait, les générations d'après ont de plus en plus de mal à y accéder. Et donc ça, c'est un vrai problème de répartition du patrimoine entre les âges. Ça n'a jamais été aussi
favorable
favorable et coupé en fait des générations à venir. Et donc forcément ça implique des discussions sur les successions, sur les donations, sur comment est-ce que ce patrimoine peut être transmis. Moi j'en parle un petit peu dans mon livre, parce qu'on parle beaucoup de fiscalité quand on parle de transmission du patrimoine. C'est devenu une espèce d'usine à gaz dans laquelle plus personne ne comprend plus rien, parce que il y a des niches fiscales par-ci par-là, parce que c'est changé à chaque gouvernement. Mais il y a quelque chose qui pour moi est un vrai verrou, qui s'appelle la réserve héréditaire en France. Et la réserve héréditaire, c'est une disposition de loi qui date depuis Napoléon, qui en fait oblige à léguer son patrimoine à sa mort à ses enfants. De manière égale, si vous avez trois enfants, les trois quarts de votre patrimoine doit revenir à vos enfants, ce qui vous empêche déjà de léguer à qui vous voulez. Peut-être que vous voulez pas léguer à vos enfants, ça ne regarde que vous, c'est pas à l'État de décider dans les familles comment le patrimoine doit être parti. Et puis surtout, c'est un outil de reproduction sociale, puisque en fait ça fait une société d'héritier et ça fait aussi une concentration de la richesse dans des mains familiales plutôt que dans des causes philanthropiques, par exemple, comme on peut voir aux États-Unis. Dernier point, c'est que on voit aussi quelque chose qui est assez néfaste, c'est qu'en fait l'âge des héritiers vieillit en même temps que la population. Au début, à la sortie de la guerre, à la libération,
vous héritiez aux alentours de... Là, j'ai vu des derniers chiffres. Maintenant, on hérite aux alentours de 55 ans, et il y a encore quelques années, c'était aux alentours de 45 ans, quoi.
Tout à fait. Donc en fait, c'était l'héritage à une époque, c'était un coup de pouce en début de vie active, si vous voulez. Ça a aidé les jeunes à se loger. Ça faisait un coup de pouce patrimonial pour lancer une entreprise, pour acheter une voiture, enfin pour, si vous voulez, pour vous aider à entrer dans la vie adulte de plein pied. Aujourd'hui, le patrimoine, il est transmis très tard, puisque les héritiers vieillissent avec leurs parents. Mmh. Et l'âge moyen en France, aujourd'hui, c'est 55 ans. Il est même de plus en plus commun que des retraités héritent de retraités. Donc ça c'est quand même une situation qu'on n'a jamais connue, et le problème de ça, c'est que si vous voulez, quand vous êtes retraité, que vous héritez de vos parents qui sont retraités, c'est pas le moment dans la vie dans lequel vous en avez le plus besoin.
Non.
Et donc ce qu'il faudrait
c'est pas le moment où vous allez réinvestir dans des projets pour la société, quoi, ou pour vous-même.
Tout à fait, et c'est même pas le moment où vous en avez besoin, et quand vous essayez de sauter des générations, moi j'ai des courriers de lecteurs, et ça m'est même arrivé dans ma famille, quand vous essayez de sauter des générations parce que ce patrimoine vous n'en avez pas besoin et vous voulez donc le transmettre à la génération
en dessous,
parce que c'est elle qui en a plus besoin. C'est extrêmement compliqué, il faut aller faire des papiers devant un notaire, il faut signer 10 000 documents, enfin j'exagère à peine, mais c'est quelque chose qui est complètement verrouillé par cette réserve héréditaire et par toute une fiscalité des successions qui n'est pas actualisée face à cette nouvelle réalité démographique et donc qui entretient cette autoconcentration du patrimoine aux mains des plus âgés, alors que beaucoup voudraient le transmettre en avance, beaucoup ont envie d'aider leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, mais la loi française est ainsi faite qu'elle ne tolère aucun saut de génération, et donc ça je pense que c'est vraiment une réforme qu'il faudrait engager très rapidement.
Alors ça sera ma dernière question, et je vous demanderai peut-être une réponse courte, c'est quand on écoute ce que vous nous dites, il y a des raisons de croire aussi que ça va être difficile de faire des réformes dans ce domaine-là, parce que l'homme politique il va avoir tendance à flatter l'électeur du moment, et comment travailler notamment sur cette meilleure répartition des patrimoines si finalement les premiers intéressés n'y consentent pas, quoi. C'est-à-dire les électeurs, et en particulier les électeurs retraités.
Alors, on le voit beaucoup dans le débat sur les retraites, hein, c'est consiste à demander toujours plus d'efforts aux actifs, de cotiser plus ou travailler plus longtemps. Par contre, on demande aucun effort aux retraités. Donc ça, c'est exactement le reflet de ce que vous venez de dire. Comment est-ce qu'on corrige ça? Alors, moi, à mon petit niveau, j'ai essayé de le faire avec ce livre pour que les lecteurs en prennent conscience. Je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, et c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler sur votre programme. Je pense qu'il faut expliquer, qu'il faut parler de démographie, qu'il faut que le débat il ait lieu. Ce débat a lieu dans les familles, on le voit beaucoup, mais il a pas lieu dans le débat public. Et donc je pense déjà qu'il faut poser ça sur la table, qu'il faut en parler de manière ouverte tous ensemble, parce que le risque, c'est à force de repousser, en tout cas d'être aveugle face à ce problème, c'est de créer des conflits entre les générations et des jeunes qui se sentent de plus en plus délaissés par un système économique politique auquel ils ne croient plus, et des personnes âgées qui ne comprennent plus la jeunesse, et donc un fossé qui se creuse entre les générations, ce qui, je pense, pourrait être la pire des choses qui puisse arriver pour la France. Donc il faut pouvoir débattre de ça, il y a des solutions, elles existent, et il faut rapidement les mettre en œuvre.
Merci beaucoup Maxime Sbeï. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le Grand Vieillissement, aux éditions de l'Observatoire, qui revient sur cette grande mutation démographique qu'est le vieillissement de nos sociétés. Merci d'avoir répondu à nos questions, et
merci,
on a eu plaisir à vous interroger, et peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler, puisqu'on va vieillir tous ensemble, donc à l'avenir, qui sait, on aura d'autres occasions d'en reparler. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.